RFI, 18h en temps universel, 19h ici à Paris. Ce journal vous est donc présenté par Diane Berger. Bonsoir Diane.
Bonsoir Simon, bonsoir à toutes et tous.
Simon Bourtembourg.
Le journal présenté par Diane Berger. Donc, et en France, on se rapproche peut-être de la fin du feuilleton autour du budget de l'État.
Les parlementaires réunis en commission mixte paritaire se sont mis d'accord sur une version qui doit encore être votée par l'Assemblée nationale et le Sénat. L'attente des familles en Israël, le Hamas a donné les noms des trois otages qui seront libérés demain en échange de 90 prisonniers palestiniens. Parmi ces otages, Yarden Bibas, le sort de sa famille est devenu un symbole dans son pays. Les troupes françaises quittent le Tchad et dans le même temps, N'Djamena accueille désormais des drones turcs, signe du nouveau soft power d'Ankara en Afrique. Et puis la biodiversité est en danger en Indonésie, la déforestation accélère dans le pays.
Mais d'abord, Diane, direction Berlin pour commencer ce journal.
Les députés allemands viennent de rejeter de justesse une proposition de loi pour restreindre l'immigration. Elle était soutenue par les conservateurs de la CDU-CSU et le parti d'extrême droite AfD. Il y a deux jours, les deux partis ont voté ensemble un autre texte, ce qui a marqué la fin du cordon sanitaire contre la formation d'extrême droite. Le vote raté de ce soir, en revanche, c'est un échec pour le candidat à la chancellerie chrétien-démocrate à trois semaines des élections législative. Pascal Thibault.
Le suspense aura duré durant des heures. La séance a été suspendue pendant 3h30 pour trouver un compromis et renvoyer le texte en commission. Les débats ont été houleux, les différents partis se rejetant la responsabilité les uns sur les autres. La proposition de loi des chrétiens-démocrates visant à restreindre les flux migratoires disposait sur le papier, grâce au soutien des libéraux, de l'alliance Sarah Wagenknecht et de l'extrême droite AfD, d'une majorité. Mais des députés ont fait défection à l'arrivée. Le texte a été rejeté par 350 voix contre 338. Après le vote d'une motion anti-immigration non contraignante des chrétiens-démocrates avec les voix de l'extrême droite en Allemagne mercredi, les critiques ont été nombreuses contre le candidat à la chancellerie de la CDU Friedrich Merz. L'ex-chancelière Angela Merkel a critiqué son successeur à la tête du parti. Friedrich Merz, attaqué pour sa stratégie, subit un échec ce vendredi. L'AfD, qui sait que la population soutient une politique migratoire plus ferme, espère bien profiter de la situation. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Un autre texte qui divise un parlement, c'est en France cette fois. Le pays va-t-il finalement obtenir un budget pour l'année 2025? Une nouvelle avancée aujourd'hui avec la commission mixte paritaire, une instance qui réunit 7 députés et 7 sénateurs. Ils se sont mis d'accord sur une version commune ce matin. Bonsoir Raphaël Delvolvé.
Bonsoir Diane.
Les représentants des deux chambres du Parlement ont donc trouvé un accord, un projet de loi de finances qui doit permettre de résorber en partie le grave déficit, mais aussi de surmonter l'absence de majorité à l'Assemblée nationale.
Oui, alors sans entrer dans le moindre détail de ce monstre législatif qu'est le PLF, le projet de loi de finances, le texte sur lequel se sont accordés sénateurs et députés tout à l'heure vise à ramener le déficit à 5,4% du PIB contre 6% en 2024. C'est moins ambitieux qu'avec Michel Barnier, le prédécesseur de François Bayrou, qui lui voulait ramener le déficit à 5% cette année. Alors pourquoi? Eh bien déjà, l'année a déjà commencé, puis parce que ce budget, en raison de l'absence de majorité, contient des concessions, des gestes à l'égard des oppositions, notamment des socialistes, dont vous savez que le gouvernement cherche à obtenir la non-censure. Le PS a obtenu tout ce qu'on lui avait promis jusque-là. François Bayrou l'avait dit dans une lettre adressée au parti. 4000 postes préservés dans l'éducation nationale, des gestes pour les fonctionnaires ou encore une taxe sur les transactions financières. Tout ça a été intégré au budget, mais les socialistes ont aussi obtenu un autre petit geste sur l'aide médicale pour les étrangers. La coupe voulue par la droite sénatoriale très puissante au sein de la CMP a été réduite de 200 millions à 111 millions d'euros. Ce cas est assez emblématique car le PS a non seulement revendiqué une victoire, mais a voté cet amendement macroniste contre la droite et l'extrême droite. C'est important car si les socialistes ne l'avaient pas voté, la commission mixte paritaire n'aurait pas été conclusive et aurait retardé encore un peu plus le cheminement parlementaire du budget.
Et justement, la prochaine étape, qu'est-ce que c'est?
Alors, l'accord du jour doit maintenant être validé par les deux chambres. Ça commence dès lundi à l'Assemblée nationale où, vous le savez, François Bayrou, je le répète, n'a pas de majorité et ne l'aura sans doute pas sur ce budget car les socialistes l'ont dit. Certes, ils ont obtenu des gains, mais ne vont évidemment pas voter l'intégralité du budget car ils se considèrent dans l'opposition. C'est pour cela que, selon toute vraisemblance, Le Premier ministre va déclencher lundi le fameux article 49.3 pour une adoption sans vote. S'en suivra, ça aussi c'est annoncé, une motion de censure de la France insoumise. Elle sera examinée puis votée soit mercredi, soit jeudi, et ce sera l'heure de vérité pour le gouvernement, mais aussi pour le Parti Socialiste, qui n'a pas encore dit s'il voterait la censure, car le PS doit encore se prononcer en interne. Les socialistes le savent, désormais seul le gouvernement peut amender le texte et pourrait donc être tenté par un ultime marchandage, surtout si le Rassemblement National continue d'entretenir le flou comme c'est le cas. Le Parti Socialiste aura de toute façon à faire un choix difficile, soit passer pour des traîtres aux yeux des insoumis qui leur font déjà savoir, soit des irresponsables s'ils faisaient échouer l'adoption d'un budget pour la France.
Merci beaucoup Raphaël Delvolvé pour ce dossier. Raphaël Delvolvé du service politique de RFI.
RFI, 20h passées de 5 minutes à Jérusalem, alors que 3 nouveaux otages du Hamas doivent être libérés demain contre 90 prisonniers palestiniens.
Leurs noms ont été donnés par le Hamas ce matin. Il s'agit du franco-israélien Ofer Calderon, l'américano-israélien Kif Sichgal et Yarden Bibas, libérés sans sa femme et ses 2 enfants dont le sort est incertain. Muriel Paradon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Tel Aviv. L'histoire de la famille Bibas a particulièrement ému les Israéliens.
Oui, c'est une histoire douloureuse, celle de Yarden Bibas, 35 ans, qui sortira seule, sans sa femme et ses 2 enfants âgés de 4 ans et 9 mois à l'époque de leur enlèvement. Le Hamas les a donnés pour morts au début de la guerre, tués lors d'un bombardement israélien, mais Israël n'a jamais confirmé. Quoi qu'il en soit, l'image de ces jeunes enfants aux cheveux roux est devenue un des symboles forts du drame des otages en Israël. Mais il y aura aussi demain des histoires joyeuses de retrouvailles, celle du franco-israélien Ofer Calderon, 54 ans, enlevé le 7 octobre avec ses 2 enfants âgés de 12 et 16 ans. Eux ont été libérés lors de la première trêve entre Israël et le Hamas il y a plus d'un an. La famille va donc être à nouveau réunie. Pareil pour Kais Sichgal, 65 ans. Sa femme prise en otage avec lui avait été aussi libérée lors de la première trêve. Elle l'attend avec impatience. Une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux la montrant explosée de joie à l'annonce de sa libération.
Merci beaucoup Muriel Paradon à Tel Aviv pour RFI.
Aux États-Unis, Donald Trump veut s'inspirer de la défense israélienne pour bâtir un dôme de fer au-dessus de son pays.
Et la Russie ne mâche pas ses mots contre le projet. Selon Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe, ce plan du président des États-Unis est comparable à la guerre des étoiles. Ce grand projet soutenu par Ronald Reagan pendant la guerre froide, on l'écoute.
Ce programme vise avant tout explicitement à dévaloriser les capacités de dissuasion stratégique de la Russie et de la Chine. Il prévoit en outre un renforcement significatif de l'arsenal nucléaire américain. En fait, nous considérons qu'il s'agit d'une nouvelle confirmation de l'objectif des États-Unis de transformer l'espace en une arène de confrontation armée. Cela discrédite complètement l'initiative promue par Washington et ses alliés visant à développer des normes, des règles et des principes, comme il le formule, de comportement responsable dans l'espace, ainsi que pour interdire les essais de missiles satellitaires à ascension directe ayant des effets destructeurs. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces approches des États-Unis ne contribueront pas à réduire les tensions dans la gestion de la situation dans la sphère stratégique.
Le président du Tchad a salué ce matin le départ définitif et complet de l'armée française après la cérémonie de rétrocession de la base de N'Djamena hier. Un départ qui marque donc la fin de la présence française dans tout le Sahel. Et au même moment, Franck Alexandre, on apprend que des drones turcs vont s'installer sur la base de Fayal Arjo.
Des personnels turcs sont effectivement déjà présents dans l'ancienne base française de Fayal Arjo et d'autres pourraient bientôt l'être à Abéché. Mais attention, ce n'est pas une présence militaire au sens propre, ce sont plutôt des techniciens chargés de mettre en œuvre les drones aériens Bayraktar acquis par le Tchad. Bayraktar dont le PDG est un proche du président Erdogan a vendu de nombreux drones permettant ainsi à la Turquie de devenir un partenaire privilégié des armées africaines. La force d'Ankara et de proposer des offres tout compris, des matériels militaires signés Bayraktar pour les drones donc et Autocar pour les blindés, des formations avec la société militaire privée Sadat, des financements mais aussi des débouchés aériennes. Ces dernières années, Turkish Airlines a ainsi ouvert des dizaines de destinations vers l'Afrique. L'offre est séduisante et ne vient pas heurter le désir de souveraineté qui souffle sur le continent puisqu'il n'y a pas de troupes déployées voyez. Une influence, un soft power réussi en somme, notamment dans le très stratégique Tchad. Ankara l'a bien compris, car qui est au Tchad peut rayonner dans l'ensemble de l'Afrique.
Franck Alexandre, spécialiste des questions de défense pour RFI. Sommet extraordinaire aujourd'hui de la communauté de développement de l'Afrique australe à Harare, au Zimbabwe. Parmi les questions qui doivent être évoquées, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président français Emmanuel Macron s'est quant à lui entretenu à ce sujet avec ses homologues angolais, ougandais et burundais.
On y revient évidemment dans la première édition d'Afrique Soir à 19h30, heure de Paris. Mais avant ça, la suite de votre journal, Diane. Et capo au Nicaragua, où le président Daniel Ortega voit ses pouvoirs encore renforcés.
L'Assemblée nationale a en effet adopté hier l'intégralité d'une réforme de la Constitution qui prolonge le mandat du président. Le texte accorde aussi une promotion à son épouse qui passe de vice-présidente à coprésidente. Aurélien Verdier.
Cette réforme consolide le pouvoir absolu exercé par le couple sur le pays d'Amérique centrale. Les deux dirigeants, Daniel Ortega et son épouse Rosario Murillo, coordonneront notamment les organes législatifs, judiciaires et électoraux qui étaient officiellement indépendants jusqu'alors. Le mandat présidentiel passe également de 5 à 6 ans. Cette mesure étant rétroactive, les prochaines élections auront donc lieu en 2028. Rosario Murillo était vice-présidente depuis 2017. Elle est donc aujourd'hui coprésidente et pourrait être appelée à prendre la relève de Daniel Ortega. Lui a 79 ans, il est à la tête du Nicaragua depuis 18 ans. Le couple a radicalisé ses positions après les manifestations anti-gouvernementales de 2018, dont la répression a fait 320 morts selon l'ONU. Daniel Ortega est accusé par les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique latine d'avoir instauré une autocratie. Ces changements drastiques marquent la destruction de l'état de droit et des libertés fondamentales dans le pays, a estimé un membre du groupe d'experts des Nations Unies pour le Nicaragua.
Oriane Verdier, début d'une opération militaire à la frontière entre la Colombie et le Venezuela. L'armée de Caracas envoie 5000 hommes dans la région de Catatumbo pour lutter contre des groupes armés. Une opération coordonnée avec le gouvernement colombien depuis la mi-janvier. Dans le secteur, les affrontements ont gagné en intensité. Selon Bogota, il y a eu 54 morts, 11 blessés et 12 disparus ces dernières semaines. L'enquête se poursuit à Washington après cet accident meurtrier mercredi soir. La collision d'un avion de ligne et d'un hélicoptère. Les deux boîtes noires ont été récupérées. Un rapport interne de l'administration fédérale de l'aviation pointe de son côté des problèmes de sous-effectifs dans la tour de contrôle. Les sauveteurs ont retrouvé pour l'instant les corps de 41 des 67 victimes.
Et on se penche à présent sur la déforestation qui s'aggrave en Indonésie.
En 2024, les activités humaines ont causé la destruction de 4000 hectares de végétation de plus qu'en 2023. C'est le constat d'une étude de l'ONG Auriga Nusantara. Une déforestation en grande partie légale liée à l'exploitation minière et à la production d'huile de palme, cela au détriment de la biodiversité. Juliette Pietraszewski.
C'est à partir d'images satellites et d'enquêtes sur le terrain que l'ONG Auriga Nusantara a pu parvenir à ce constat alarmant. À la clé des chiffres vertigineux, plus de 2600 km² de forêts primaires et secondaires déboisées en 2024, une augmentation pour la troisième année consécutive et une progression de la déforestation légale qui touche presque toutes les provinces du pays, sauf la région autour de Jakarta. Les pertes les plus importantes se situent dans la partie indonésienne de l'île de Bornéo et notamment dans la région de la nouvelle capitale, Nusantara, en pleine construction. Les ONG environnementales du pays appellent donc le chef de l'État, Prabowo Subianto, au pouvoir depuis octobre, à mettre en place un décret présidentiel pour protéger toutes les forêts naturelles restantes. Seulement voilà, les derniers projets annoncés par le président vont complètement dans le sens inverse. Parit Ridwanuddin travaille pour l'ONG Greenface Indonesia.
Nous avons aussi une grande menace avec le nouveau président, parce qu'avec son ministère de la forêt, il va développer de grands projets avec de nouvelles plantations d'huile de palme, des réserves alimentaires et énergétiques. Ils veulent convertir près de 20 millions d'hectares, donc c'est très inquiétant.
20 millions d'hectares, l'équivalent de la superficie du Sénégal, alors que l'Indonésie possède la troisième forêt tropicale du monde, après celle du Brésil et du Congo.
En Hongrie maintenant, Viktor Orban rêve d'un grand Budapest, un nouveau quartier flambant neuf, avec des tours immenses dans le nord-est de la capitale. Ses détracteurs dénoncent un mini Dubaï. Le projet suscite en effet beaucoup d'inquiétudes au sein de l'opposition. majoritaires dans la capitale. À Budapest, Florence Labruyère.
C'est un projet grandiose du gouvernement Orban. Implanter un nouveau quartier d'affaires à Budapest, un quartier dominé par des tours, des hôtels et magasins de luxe, et un gratte-ciel de 500 mètres de haut, qui serait la tour la plus haute d'Europe. Le gouvernement a signé un contrat avec un promoteur de Dubaï, le milliardaire Mohamed Al-Abbar, connu pour avoir construit la tour la plus haute du monde. Ce nouveau quartier va booster l'économie et créer des milliers d'emplois, argumente le gouvernement. Mais ses détracteurs déplorent une débauche de luxe qui va tirer les prix de l'immobilier vers le haut et profiter aux oligarques proches du pouvoir. Le maire écologiste de Budapest, Gergely Karácsony, est vent debout contre ce projet qui risque selon lui de défigurer la capitale hongroise. Le maire a décidé d'exercer son droit de préemption sur le terrain et il présente un contre-projet avec des espaces verts et des logements accessibles aux Budapestois. C'est donc un véritable bras de fer qui s'annonce entre la ville de Budapest et le gouvernement de Viktor Orban. Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Il est maintenant 18h15 en temps universel. Je vous laisse en compagnie de Simon Bourtembourg pour RFI Soir.
C'était le journal signé Diane Berger. Merci à vous. Nous sommes en effet encore ensemble pour un quart d'heure avant la première édition d'Afrique Soir. Et au programme qui dit vendredi, dit votre chronique Le Monde en question, Bruno Daroux s'interrogera sur les menaces que connaissent les démocraties occidentales face à la montée des mouvements populistes. À suivre également notre entretien avec le rédacteur en chef du magazine L'Équipe. À la une de l'hebdomadaire cette semaine du MMA, le sport de combat qui pourrait couronner un nouveau roi. Le français Noureddine Imavov en main event de la soirée du UFC organisée la nuit prochaine à Riyad. Nous reviendrons sur le parcours de ce champion. Mais avant ça, on pose les gants pour enfiler les crampons. Et le journal des sports ce soir, c'est avec vous Victor Missistrano.
Bonsoir Simon, bonsoir à tous.
À la une, le football, le tirage au sort des barrages de Ligue des Champions s'est tenu aujourd'hui. On trouve du beau monde parmi les clubs qui n'ont pas décroché de ticket direct pour les huitièmes de finale.
Illustration avec cet énorme choc en perspective, Manchester City, Real Madrid, tout simplement les deux derniers vainqueurs. L'une de ces deux équipes ne verra donc pas les huitièmes de finale. De son côté, la Juventus Turin jouera son ticket contre le PSV Eindhoven. Autre affiche italo-néerlandaise, AC Milan Feyenoord Rotterdam. Le Bayern Munich affrontera le Celtic Glasgow. Le meilleur joueur africain de l'année, Ademola Lookman, et l'Atalanta Bergame seront opposés à Bruges. Le Guinéen Serro Guirassy et Dortmund héritent du Sporting Portugal. Monaco du Benfica Lisbonne. Enfin, duel franco-français entre Brest et le Paris Saint-Germain. Match aller prévu, Simon, les 11 et 12 février.
Mais avant sa grande répétition, Brestois et Parisiens se retrouvent dès demain, cette fois pour le compte de la 20e journée de Ligue 1.
Une journée qui s'ouvre dès ce soir à Montpellier, club en très mauvaise posture, avant-dernier du classement au moment de recevoir le RC Lens, 7e. Les Héroltais peuvent compter sur un renfort, une vieille connaissance qui va retrouver sa place sur le front de l'attaque. Andy Delors, à 33 ans, l'international algérien arrivant près du Mouloudia d'Alger, 3 ans et demi après son départ.
Je sentais que l'histoire n'était pas finie avec le club. Ça n'a pas pu se faire cet été. C'est vrai que je me voyais mal à distance voir le club comme ça et pas être dedans pour les aider, pour apporter quelque chose au club. Et j'avais pas mal de regrets sur la fin de mon histoire avec ce club. Je me sens bien déjà mentalement d'être là. La situation du club me faisait mal. Je suis pas un sauveur. Je vais essayer d'apporter, de mettre mes buts, de faire mes passes décisives aussi et surtout sauver ce club. C'est ma priorité.
Montpellier qui n'a pas attendu Andy Delors pour se remettre la tête à l'endroit avec deux succès d'affilée. Objectif donc la passe de 3 face à Lens, coup d'envoi dans 1h30.
Et Victor, ce soir il y a aussi du rugby. C'est une tradition en cette saison, le début du tournoi des 6 nations.
Les 6 meilleurs pays de l'hémisphère nord se retrouvent comme chaque année depuis 2000 et l'intégration de l'Italie. La squadra qui fait figure de maillon faible, mais le pays de Galles est en train de lui chipper son bonnet d'âne. Des Gallois loin de leur période dorée. 11 défaite de rang au moment d'affronter ce soir les Bleus en ouverture au Stade de France. Antoine Dupont et ses coéquipiers qui, de leur côté, vont tenter de reprendre le trophée à l'Irlande, double tenante du titre. Et ça passe donc par une victoire contre des Gallois que le capitaine français refuse de sous-estimer.
J'ose espérer qu'on a l'expérience aujourd'hui de pas se dire qu'on peut se relâcher parce qu'une équipe est sur une série de défaites. Tous les ans, il y a des surprises dans ce tournoi et on n'a pas envie de figurer dedans. On sait qu'une équipe qui est en difficulté, elle peut toujours retrouver une énergie supplémentaire qu'elle n'avait pas avant et retourner une dynamique sur un fait de jeu, sur un match. Et ils ont rentré des joueurs en plus d'expérience qui connaissent très bien ce tournoi et ses matchs internationaux. Donc, il faut qu'on reste très vigilant.
Antoine Dupont au micro de Babacar Diarra avant France-Pays de Galles. Coup d'envoi 20h15 temps universel. un peu plus tôt, au début de la seconde demi-finale du mondial de handball. Le Portugal, surprise de cette compétition, défie le Danemark, champion olympique en titre. Simon, coup d'envoi dans un peu plus d'une heure.
Victor Missistrano pour le journal des sports, l'actualité sportive. C'est aussi à chaque instant, évidemment, sur nos sites internet www.rfi.fr. Du sport toujours et la une du journal L'Équipe. Avec nous en studio, Antoine Bourlon, rédacteur en chef du magazine. Bonsoir.
Bonsoir Simon.
Alors la première page de votre hebdomadaire est consacrée à un combattant français de MMA. Il pourrait changer de dimension lors d'un combat organisé dans la nuit de samedi à Riyad. Il s'agit de Nassourdin Imavov. Le combat de sa vie, peut-on lire en une de votre magazine, Antoine ?
Ouais, bien sûr, le combat de sa vie, parce que Nassourdin Imavov, il affronte un énorme combattant qui est Israël Adesanya en Arabie Saoudite. Et Nassourdin Imavov, pourquoi on l'a mis en une ? C'est pas le combattant le plus médiatisé en France par rapport à Cyril Gane ou Benoît Saint-Denis, mais c'est un combattant qui est déjà excellentissime et qui est dans le paysage depuis un moment. Il a combattu à la première édition de l'UFC à Paris. Et depuis, il a cessé de s'améliorer avec des hauts, des bas, c'est tout ça qui nous raconte. Avec aussi une collaboration avec son entraîneur Nicolas Haute, qui est l'entraîneur un peu qui monte en France, d'ailleurs, qui est aussi l'entraîneur de Benoît Saint-Denis. Et voilà, c'est tout ce qu'on raconte. Et à Riyad, donc, il est face à Israël Adesanya, qui n'est plus champion à l'UFC. Ça serait en fait un énorme exploit de le battre. Parce que c'est vraiment un cador depuis 10 ans, c'est une star mondiale du MMA.
Justement, oui, il y a pas de titre en jeu, donc samedi soir. Mais vu l'adversaire que vous commencez à décrire, c'est clairement le combat le plus important de la carrière d'Imavov.
Ouais, bien sûr. Je peux même élargir, c'est qu'en cas de victoire, nous c'est un peu comme ça qu'on l'a imaginé et que le MMA français en parle. En fait, s'il gagne, c'est la plus belle victoire d'un Français dans l'histoire de l'UFC. Il y a eu des énormes combats. On se rappelle de Cyril Gane face à John Jones ou Francis Ngannou, mais malheureusement, c'était 2 défaites. Donc en cas de victoire pour Imavov, ça serait exceptionnel, et pour le MMA français en général, parce que ça démontre déjà tout l'engouement, que les Français sont très talentueux. Imavov, c'est aussi une histoire, c'est quelqu'un qui est né au Daghestan, qui est arrivé en France petit, qui a grandi à Salon de Provence, qui s'est mis au MMA, qui est arrivé à Paris au MMA Factory, qui a eu plein de péripéties, donc c'est tout ça qu'on raconte et c'est à lire dans le magazine.
Oui, c'est ça, donc une histoire qu'on peut lire dans votre hebdomadaire. Le magazine L'Équipe, c'est aussi des reportages. Vous revenez dans ce numéro sur l'influence du chanteur Ed Sheeran sur un club anglais de Premier League, c'est donc du football, là, évidemment. La star anglaise est donc actionnaire minoritaire du promu Ipswich.
Oui, exactement. En fait, Ipswich, c'est la ville où il a grandi, et donc qui est en Premier League depuis cette année. C'est un petit village du Suffolk, pas très loin de un petit village, c'est une ville, mais lui vit dans un petit village à côté de Ipswich, dans une ville très calme, voilà. Et en fait, il a commencé sa carrière là-bas, de chanteur évidemment, pas de footballeur, dans les pubs, à chanter, à s'investir beaucoup dans la communauté une fois qu'il est devenu une star, et donc à s'investir aussi dans le club de foot, dont il est un énorme fan. Donc Ed Sheeran, c'est quelqu'un qu'on voit déjà beaucoup au stade, qui, quand il est pas en tournée, il loupe pas un match de Ipswich à domicile. Nous, on y était à l'occasion de Ipswich Manchester City, donc il était en tribune, voilà. Mmh. Et il y a beaucoup d'anecdotes, en fait, de son implication dans la vie du club.
Ouais, justement, concrètement, en tant que star mondiale, comme ça, est-ce qu'il a le temps déjà de s'investir? Vous nous disiez que oui. Mais quoi, il appelle les joueurs, qu'est-ce qu'il fait?
Bah, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs qui tournent à Ipswich, et dont notamment une, c'est qu'il aurait appelé Liam Delap, donc un joueur qui a été formé à City, et qui joue aujourd'hui à Ipswich, pour le convaincre de signer. Et il s'implique aussi dans des initiatives plus discrètes. Il est devenu très ami avec un prêtre qui est un dingue du club, dans les pubs. Donc c'est Jérémy Docteur qui est parti en reportage là-bas avec le photographe Jean-François Robert. Bon, chacun a un peu sa petite anecdote avec Ed Sheeran. Un jour, on l'a vu au supermarché avec son maillot. Un jour, il est dans un pub, il boit une bière et regarde la Première Ligue. Donc voilà, ce qu'on raconte, c'est un peu la petite vie d'Ed Sheeran dans son petit village de campagne. C'est comme je sais pas, Stromae, il était bon, il est belge, mais s'il était dans un petit village belge, ouais. Qu'il adorait le foot, voilà, c'est une histoire assez amusante. Et en fait, on n'a pas vu Ed Sheeran, mais dans les photos, on voit que dans toute la ville, il y a sa tête, voilà, et les gens s'identifient beaucoup à lui, et il paraît que c'est un bon mec, donc. Donc voilà, c'est un peu l'idée du reportage.
Et enfin, dans le journal L'Équipe, dans le magazine, l'un de vos journalistes est aussi allé à la rencontre d'une ancienne internationale anglaise de rugby pour raconter le combat de sa vie, le combat contre une maladie, l'alopécie, qui entraîne une perte de cheveux. C'est une championne, Heather Fisher, qui est atteinte de cette maladie. Et en gros, depuis 2010, lorsqu'elle avait 25 ans, elle a été touchée par la maladie, et elle raconte sa vie de sportive avec donc ces problèmes de santé.
Ouais, bien sûr, ce qu'elle raconte, c'est ça, et c'est comment elle l'a vécu toute sa carrière et son après-carrière, sur et en dehors du terrain, donc sans cheveux. Donc, elle raconte ce qu'est être une femme chauve dans la vie quotidienne. J'ai le magazine sous les yeux. Par exemple, il y a une citation qu'elle dit, c'est que pour prouver qu'elle était une femme, elle a été un jour obligée de montrer ses seins à la police. Ouais. Donc, c'est un récit de... un peu de résilience. Voilà, elle raconte « Je veux changer le regard que les gens peuvent avoir sur moi ». Elle raconte aussi les bacs, qu'au début elle voulait beaucoup se cacher, qu'elle portait des perruques, mais qu'en fait, évidemment, elle se sentait pas du tout elle-même avec une perruque. Voilà, il y a aussi le rapport avec sa sœur, qui est touchée par la même maladie, qui le vit aussi très différemment d'elle. C'est un combat, sachant que c'est une joueuse très atypique, très charismatique, qui a vraiment marqué le rugby anglais. Ça. Donc voilà, c'est l'histoire qu'elle nous raconte, et c'est un long témoignage. Il n'y a pas d'écrit journalistique, c'est vraiment que du témoignage pur. C'est assez touchant de voir à quel point ça a changé sa vie et comment elle vit avec tout ça.
Un témoignage et donc un combat qu'on peut lire dans le magazine L'Équipe. Merci Antoine Bourlon, rédacteur en chef de L'Équipe Magazine. RFI 19h25 ici à Paris, comme chaque vendredi, nous retrouvons votre chronique Bruno Daroux, Le Monde en question. Cette semaine, vous revenez sur la montée en puissance de formations d'extrême droite ou populistes, ou de formations plus traditionnelles qui se sont radicalisées dans de nombreuses démocraties occidentales en Europe et aux États-Unis. Et la question que vous vous posez, Bruno, est la suivante. Les démocraties occidentales sont-elles menacées par ces mouvements populistes ?
Eh bien, la réponse est oui, du moins on peut dire qu'elles sont fragilisées, remises en question par la progression, parfois spectaculaire dans les urnes, de ces mouvements populistes qui longtemps sont restés des groupuscules quasiment inexistants sur la scène politique nationale. C'est le cas de l'AFD en Allemagne ou de Fratelli d'Italia en Italie et depuis plus longtemps du Front National, aujourd'hui Rassemblement National en France. D'autres partis plus traditionnels se sont peu à peu radicalisés. On peut penser au PIS en Pologne et bien sûr au Parti républicain aux États-Unis qui est passé bon gré mal gré sous les fourches caudines de Donald Trump. Le constat, il est assez clair. Si ces formations se renforcent, c'est essentiellement pour une raison. Leur discours, fondé sur le rejet des élites, la défense des classes populaires, la dénonciation de l'immigration, la mise en avant de la souveraineté, des valeurs traditionnelles et de l'identité nationale, ce discours trouve de plus en plus d'écho, notamment, mais pas seulement, au sein des classes populaires.
Et Bruno, face à cette progression, que font les partis de droite traditionnels ?
Eh bien, ils sont pris en permanence entre deux écueils. Soit ils maintiennent une ligne modérée et sont de plus en plus accusés de se dire de droite, mais en fait de mener des politiques de centre-gauche, et ils le payent cher électoralement. Soit ils acceptent de franchir le Rubicon en s'alliant avec l'extrême droite. Le cas le plus marquant ces derniers jours a bien sûr été celui de l'Allemagne, où pour la première fois depuis la création de la République fédérale en 1949, le parti de droite, la CDU, le parti d'Angela Merkel, a accepté les voix de l'AFD pour faire adopter un texte durcissant les règles de la politique migratoire. Au point d'ailleurs que Mme Merkel a estimé cette initiative erronée. Et bien sûr, la question se pose en permanence en France.
Et à gauche de l'échiquier politique, comment réagit-on ?
Eh bien, soit on reste dans la condamnation morale de l'extrême droite, ce qui paraît assez peu efficace pour endiguer la progression continue des populistes dans les urnes, soit on reconnaît qu'il y a de vrais problèmes de société posés par ces partis et on tente d'y apporter des réponses différentes. Mais le chemin est long car ces partis sociodémocrates soit ne sont plus audibles car discrédités par leur passage au pouvoir décevant, soit sont fortement concurrencés par une gauche plus radicale. Bref, la crise démocratique est réelle et les formations modérées feraient bien de refaire de la politique au sens noble du terme, produire des résultats concrets pour la vie des gens et sortir des postures et des bulles idéologiques, faute de quoi les partis populistes finiront par arriver au pouvoir. C'est déjà le cas dans certains pays.
Bruno Daroux pour Le Monde en question, et c'est ainsi que se referme cette édition d'RFI Soir. Restez bien à l'écoute de la Radio du Monde. Dans un instant, l'actualité africaine sur RFI.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
L'Allemagne, première économie de la zone euro, est plongée dans une crise profonde. confrontés à une panne de croissance, à une activité au ralenti, les patrons sont en colère à quelques semaines d'élections indécises. Nous analyserons les raisons de ce marasme et les conséquences pour l'ensemble du continent.
Éco d'ici, éco d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Demain sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Plus de 80% de la production d'huile de palme provient d'Indonésie et de Malaisie. Critiquée pour la déforestation massive et les impacts sociaux qu'elle entraîne, elle est en pleine expansion sur le continent africain. Nous vous emmenons au Cameroun et au Bénin.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Tout à l'heure, à partir de 23h10 TU.
RFI.